Vous inviter à tourner dans vos Bibles à la page 739 à Romains, l'épître de Paul aux Romains et le chapitre 11. On va poursuivre cette série dans l'épître de Paul aux Romains qu'on a commencé au mois de septembre, même si on a eu des coupures et d'autres séries au milieu. Nous sommes donc aujourd'hui à Romains chapitre 11. On va lire à partir du verset 1. Et nous avons déjà prié, qui a déjà prié pour nous, donc on va lire le passage. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie? Le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, ils cherchent à m'enlever la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. » De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, ne l'a-t-il pas obtenu? Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que la table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or si leur faux pas fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si la mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira la réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé? C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré, et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. Et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Et en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de la désobéissance. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, est-ce que vous aimez étudier l'histoire? Certains oui, certains non. Peut-être l'école vous a beaucoup ennuyé quand il s'agissait de l'histoire, parce qu'il fallait apprendre par cœur toutes ces dates, la liste des rois, des révolutions, des guerres, des régimes différents. Vercingétorix, Clovis, Louis Ier, dit le bon, François Ier, Louis XIV, Louis XVI, ensuite la Révolution française, Napoléon, le Premier Empire, la Restauration, Seconde République, Second Empire, ah, ça n'en finit pas. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, c'est souvent comme ça que nous apprenons l'histoire. Mais il faut savoir que tout ça, c'est une vision très partielle de l'histoire. Parce que la vraie grande histoire du monde, de l'humanité, est celle qui concerne Dieu et son peuple. Adam et Ève au début, Abraham, Moïse et l'Exode, Israël et le peuple israélite, le roi David, l'exil et le retour, et bien sûr Jésus-Christ au centre. Et après, il y a la propagation de l'Évangile, à Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par la province romaine, qui deviendra la Provence, ensuite la ville de Lyon, la Gaule tout entière, les villes et villages de France, plus tard l'Afrique, Madagascar, l'Asie, et ainsi de suite. Et quand nous pensons à notre situation présente à la lumière de cette longue histoire, nous pouvons parfois nous poser des questions. Dans notre génération, l'Europe, dans son ensemble, semble s'éloigner de ses racines judéo-chrétiennes assez rapidement. Et autour de nous, peu de personnes croient en Jésus. Et parfois, la culture est méprisante à l'égard de notre foi, cette foi historique. Et parfois même fermée intellectuellement à considérer les preuves historiques qui sous-tendent la foi, qui plaident en faveur de la foi. On peut se poser des questions, pourquoi ? Heureusement que l'Évangile progresse ailleurs dans le monde, actuellement, en Afrique, en Asie. Et heureusement, quelques-uns de nos frères et sœurs de là-bas émigrent pour nous rejoindre ici, pour nous aider. En tout cas, quand nous pensons à notre situation présente, à la lumière de l'histoire, on pourrait parfois douter du bien fondé de la foi, de notre foi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Évangile a failli? Est-ce que l'Évangile manque de puissance ici en Occident? Est-ce que l'Évangile est arriéré? Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il y a un avenir pour l'Évangile en Europe? Alors, je suggère que le même genre de questions se posait aussi à l'époque de Paul, à l'époque de cette lettre envoyée à l'église de Rome. Même genre de questions, mais pas tout à fait les mêmes questions. Et comme nous avons vu ces dernières semaines dans cette section qui va du chapitre 9 au chapitre 11, la question qui taraudait l'esprit des gens de l'époque concernait le sort du peuple juif. Pourquoi, après leur histoire, avec les prophètes, avec Abraham, avec Moïse, avec le retour de l'exil, pourquoi est-ce que ce peuple n'a pas cru en Jésus-Christ? Et du coup, pourquoi est-ce que ce peuple se trouve aujourd'hui éloigné de Dieu, en dehors du peuple de Dieu? Est-ce que l'Évangile n'a pas été assez puissant pour sauver ce peuple? Ou est-ce que Dieu n'a pas été fidèle à son égard? Et si Dieu n'a pas été fidèle à son égard, est-ce qu'il va être fidèle à notre égard? En tout cas, ces questions-là se posaient. Et Paul devait y répondre pour que ses lecteurs puissent avoir la confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Et l'Évangile est bien authentique. Mais on a vu que parfois, ces réponses ne sont pas faciles à comprendre et ne sont pas toujours faciles à accepter. Paul nous demande dans cette section d'avoir une vision, une compréhension plus grande de Dieu lui-même. On a vu, même si ce n'était pas forcément facile à accepter, que Dieu est souverain, il choisit qui veut, il sauve qui veut, il choisit qui veut. Et il endurcit ce qui veut aussi. Il est pleinement souverain. Il est aussi le Dieu de grâce qui, face à la rébellion de son peuple, ce peuple historique, avait pourtant eu l'Évangile dans ses Écritures. Face à ce rejet, il s'est tourné dans l'histoire vers les non-juifs, des personnes comme nous. Et ce matin, dans ce dernier texte de cette section, on est toujours dans la continuation de la réponse à ces questions-là. Et Paul, en même temps, commence à répondre ou à corriger, plutôt, peut-être, des non-juifs qui méprisent les juifs qui ne croient pas. peut-être des personnes qui prennent un peu de plaisir à savoir que ce peuple historique a été mis à l'écart. Peut-être parce qu'ils étaient un peu fiers de leur nouvelle place. Fiers d'avoir compris que Jésus est bel et bien le Messie, chose que beaucoup de Juifs n'avaient pas compris. Et Paul veut répondre à ces questions, à ces problèmes, en nous dévoilant la grandeur de Dieu et la sagesse de ses plans. Il sait ce qu'il fait. Et ça pour que nous nous humilions devant lui, dans la confiance. Il sait ce qu'il fait. C'est lui qui est au centre de son histoire, de l'univers. C'est lui le maître souverain de l'histoire. Oui, ses desseins sont parfois insondables. On ne comprend pas toujours pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais il est sage. Et on va voir ça en trois temps ce matin. On va voir d'abord que Dieu est le maître souverain. On va voir ça dans les 10 premiers versets. Dieu est le maître souverain. Et ensuite, on va voir que Dieu est bon et sévère. Dieu est bon et sévère. C'est dans les versets 11 à 24. Et à la fin, on va voir que Dieu est fidèle et glorieux. Fidèle et glorieux. On va voir ça dans les versets 25 à 32. Donc d'abord, c'est Dieu le maître souverain de cet univers et de l'histoire. À la fin de notre passage, donc à la fin du chapitre 10, ce qu'on a vu il y a deux semaines maintenant, on a vu que Dieu s'est tourné vers les nations, vers les non-juifs, parce qu'Israël, qui avait pourtant entendu l'Évangile dans ses Écritures, dans l'Ancien Testament, ne l'a pas reçu. D'où la question au verset 1 de notre passage. « Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ?» Il parle là du peuple juif, ethnique, physique. Et Paul est catégorique. « Certainement pas. Certainement pas. » Il se donne d'abord lui-même en exemple. Parce que, comme il dit, « Je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Il est juif, Paul. Il est lui-même la preuve vivante que non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, il n'a pas rejeté les Juifs. Et ensuite, il va un peu plus loin et il donne une illustration tirée de l'Ancien Testament. Il parle de l'époque d'Élie. Élie, le prophète, qui avait dressé un autel sur le mont Carmel contre les faux prophètes de Baal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. C'est le récit qui raconte comment Dieu avait allumé lui-même l'autel. Élie avait dressé un autel, les faux prophètes avaient fait de même. Il a mis un sacrifice dessus, il a même mis de l'eau dessus. Et ensuite, il a demandé à Dieu d'allumer lui-même le sacrifice. Et c'est ce que Dieu a fait. C'était extraordinaire. Mais c'était une époque très difficile pour lui. Et même ça, ça lui a causé beaucoup d'ennuis avec le roi Achab et sa femme Jézabel. Et Élie se sentait très seul. Peut-être c'est quelque chose que nous pouvons ressentir parfois aussi dans notre génération, seul, comme croyant. Il se sentait très seul, comme s'il était le seul parmi le peuple juif qui croyait, qui était fidèle et qui suivait le Seigneur. Et c'est ce qu'il a dit au Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit au verset 4, et c'est ce qu'on voit au verset 4. Non, vous n'êtes pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Alors, sans doute, il y a quelque chose de symbolique dans ce chiffre-là, parce que le chiffre 7 et le chiffre 1000 renvoient à la plénitude, au nombre parfait que Dieu choisit. Et on voit que Dieu a choisi un reste. Il a choisi un reste qui est beaucoup plus nombreux qu'Élie pouvait imaginer. Et Paul dit que c'est la même chose à son époque. Il s'est réservé un reste. Il y a des Juifs qui croient en Jésus, qui vont croire en Jésus. Dieu s'est choisi un reste. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des Juifs qui viennent au Seigneur, qui mettent leur confiance en lui. Et je pense que c'est aussi vrai pour les non-Juifs. Dieu choisit un reste des peuples non-Juifs, de toutes les nations. Dieu seul connaît le nombre. Il est le maître souverain de ce choix-là. Et on voit ça au verset 5, il est vraiment souverain dans ce domaine. Il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques semaines au chapitre 9. Dieu a compassion de qui il veut avoir compassion. Il endurcit même qui il veut endurcir. Et donc, Dieu n'est pas pris au dépourvu par le rejet de l'Évangile d'une manière assez massive par des Juifs, à son époque comme à notre époque. Il n'est pas pris au dépourvu par le manque de foi dans notre génération, ici en Occident. Il est le maître souverain en termes d'élection, en termes de qui va venir à lui. Au verset 8 à 10, Paul cite Ésaïe, un prophète, qui avait même prévu cette incrédulité, qui avait parlé à l'avance de ce que Dieu allait faire, de l'endurcissement que Dieu allait donner, qui allait se passer. Dieu n'est pas pris au dépourvu par ce qui se passe. Même si beaucoup de gens ne croient pas, non, Dieu est souverain. Il s'est réservé un reste. Paul est la preuve vivante à son époque. Et même à notre époque, il y a ce reste. Vous connaissez peut-être sans doute des personnes d'arrière-plan juif. Peut-être vous êtes d'arrière-plan juif ce matin et vous pouvez témoigner que le Seigneur vous a conduit à lui-même. Et même parmi nos peuples, qu'on soit malgache, congolais, français, allemand, écossais, brésilien, coréen. On est aussi la preuve vivante que Dieu est à l'œuvre, que le Dieu qui est le maître souverain de l'univers, qui choisit, est à l'œuvre. Et même si beaucoup de nos compatriotes ne croient pas, même si parfois on se sent très seul, Dieu s'est choisi un reste, il s'est réservé un reste. Il est à l'œuvre. Et peut-être comme dans l'exemple de Paul, peut-être ce reste est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. En tout cas, Dieu choisit le nombre parfait qui lui convient. Et heureusement, parce que si ça dépendait de nous-mêmes, aucun d'entre nous choisirait Dieu, qu'on soit juif ou non-juif, autochtone ou immigrant. Et ça, c'est ce que Paul veut nous rappeler dans cette section. Si nous sommes au Seigneur ce matin, c'est uniquement grâce à lui. C'est lui qui nous a conduits à lui. C'est lui qui nous a montré sa grandeur, sa grande générosité. On n'y est-il pour rien. Et il martèle ça au verset 6. Il faut que ça soit ainsi. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est tellement facile d'oublier ça. Que le fait que nous sommes au Seigneur, ce n'est pas dû à notre intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes plus clairvoyants, plus intelligents, plus sages, plus spirituels que d'autres. Ou parce que nos peuples, vous appartenez à un peuple où vous êtes nombreux à croire en Jésus. Mais ce n'est pas parce que votre peuple est meilleur qu'un autre peuple, meilleur que le peuple juif. Non, c'est simplement en vertu de la générosité imméritée de Dieu. Dieu est le maître souverain. Ce qui nous amène à notre deuxième point pour ce matin. Ce Dieu qui est le maître souverain, qui choisit qui veut, qui s'est réservé un reste, est à la fois bon et sévère. Et Paul veut que nous considérions cette bonté ce matin. Mais il veut aussi qu'on soit instruit par sa sévérité. Au verset 11, nous avons une nouvelle question. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? C'est-à-dire, est-ce que c'en est fini des Israélites? Est-ce que Dieu ne veut plus rien faire avec eux? Est-ce qu'il a tiré un trait définitif sur ce peuple historique, ce peuple ethnique, le peuple juif historique? Et encore une fois, Paul est très direct et clair. Certainement pas, certainement pas. Ceux qui ne sont pas juifs pourraient être tentés de se vanter en disant, voilà, on est peut-être meilleurs que les juifs maintenant. Nous, on a compris, on a mis notre confiance en Jésus. Et ici, Paul nous dit que si nous sommes au Seigneur, c'est parce que Dieu a un plan. Et Dieu désire provoquer la jalousie des Juifs. C'est ce qu'on voit dans la fin du verset 11. Mais grâce à leur faux pas, le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus, les non-Juifs ont eu accès au salut. Ça, c'est nous avons mis notre confiance en Jésus. Pourquoi? Afin de provoquer leur jalousie. Ça peut être un peu humiliant de savoir ça. C'est un peu comme si quelqu'un s'intéresse à nous parce qu'il veut parler à un ami à nous. Ou c'est peut-être plutôt comme un jeune homme qui parle à une fille pour provoquer la jalousie d'une autre fille qu'il aime vraiment, mais qui ne le voit pas. Dieu n'a pas rejeté ce peuple historique. Non, il n'a pas tiré un trait sur les Juifs. Dans un sens, on l'a déjà vu il y a deux semaines. Le dernier verset du chapitre 10 nous a dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Et toujours patient. Il est tellement désireux que son peuple, que des Juifs, viennent à lui. On peut être infiniment reconnaissant envers Dieu, parce qu'il s'est tourné vers nous, les non-Juifs, pour que nous puissions connaître Dieu en Jésus. Et en même temps, nous devons savoir qu'il a fait aussi pour provoquer la jalousie du peuple juif. Il me semble que Paul envisage un moment quand beaucoup de Juifs ethniques vont se tourner vers Christ, ou du moins la possibilité. Parce que les versets 12 et 15, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, semblent évoquer un jour de grande joie, sans doute le jour de la résurrection, en disant que si leur rejet de l'Évangile a été notre bénédiction, leur accueil ou leur réintégration dans l'Évangile, ça sera un moment encore plus glorieux pour nous. Et Paul commence à expliquer ça en prenant la métaphore d'un olivier cultivé, un arbre très répandu dans le bassin méditerranéen. Et Paul dit que des branches, c'est-à-dire des Israélites qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas cru en Jésus, ont été découpées, retranchées. Retranchées de cet arbre qui représente le peuple de Dieu ou qui est Israël élu. Et ensuite, il dit que d'autres branches venant d'un olivier sauvage ont été greffées sur cet olivier cultivé. Et ces branches-là représentent des non-juifs comme nous qui avons mis notre confiance en Jésus. Nous avons été greffés sur cet olivier cultivé parmi les juifs qui ont quand même cru en Jésus, comme l'apôtre Paul. Moi, j'aime bien le jardinage. Ça m'arrive parfois de prendre des boutures de plantes pour faire pousser d'autres nouvelles plantes, avec plus ou moins de succès à chaque fois. Je n'ai jamais greffé quelque chose sur une autre plante. Je crois que ça doit être assez difficile de le faire. Et Paul veut peut-être nous montrer ça. C'est quelque chose qui est assez difficile. Ce n'est pas naturel. Peut-être pour nous, citadins, c'est... Peut-être l'image de greffe médicale nous aide aussi. Parfois, c'est difficile. La greffe ne prend pas ou ce n'est pas évident. En tout cas, on comprend exactement de quoi il s'agit. Dieu nous a greffés, nous qui étions des branches assez différentes sur cet olivier qui est son peuple. Et Paul veut nous rendre humble aussi par cette illustration. Si Dieu nous a greffés, nous qui appartenons à cet arbre sauvage, c'est simplement en vertu de sa bonté. Il a été un jardinier qui nous a montrer sa bonté. Et on n'y est pour rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas se vanter. Verset 18, ne te vante pas aux dépens de ces branches juives. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Parce qu'on n'est pas meilleur que ces branches tranchées. Verset 19 à 21 nous dit ça, on n'est pas meilleur. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. Un peu dans l'orgueil et dans la fierté. C'est vrai, dit Paul. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Parce qu'on est simplement des vagabonds. On n'a pas de droit à faire valoir. On est un peu comme des mendiants. Nous subsistons par la foi, simplement. On reçoit ce salut par la foi, comme des mendiants, sans aucun mérite de notre part. Et on doit reconnaître que Dieu a été bon à notre égard. Et même notre foi est parfois bien faible, bien balbutiante. Nous dépendons même de Dieu pour cette foi. C'est lui qui nous a donné la foi. C'est nous qui nous fait persévérer dans la foi, grâce à lui. On voit aussi dans cette section que Dieu tend sa main généreuse envers les Juifs qui ne croient pas. La porte est ouverte. Le salut est un don gratuit pour tous, à recevoir comme des mendiants. Il suffit de s'accrocher à Christ sans rien apporter. Ça vaut pour nous, ça vaut pour les Juifs. Et on voit que Dieu prend plaisir à greffer les Juifs des branches naturelles sur son olivier. Il veut les réintégrer, il l'envisage. Dieu veut que nous réalisions ça au plus profond de nos cœurs. Sans doute à Rome, il y avait quelques tensions dans l'Église entre croyants d'arrière-plan juif et croyants d'arrière-plan non-juif. Et on sait dans les Actes des Apôtres qu'il y avait quand même des tensions vives entre l'Église dans son ensemble et les Juifs qui ne croyaient pas. Paul ne veut pas que les non-juifs comme nous tombent dans le mépris des Juifs ou dans l'antisémitisme. Si nous, on est au Christ, si on est tenu à Christ par cette colle de la foi, c'est simplement parce que Dieu nous a donné cette foi. C'est Dieu qui nous a conduits à lui. Dieu nous a montré sa bonté extravagante. Il nous a greffé, nous, des branches sauvages sur cet olivier cultivé. Et ça, malgré nous. Il étend cette même possibilité aux Juifs qui n'ont pas encore plié les genoux devant le Seigneur. Il veut qu'on soit conscient aussi de sa sévérité. Si, comme eux, nous cessons de nous accrocher à Christ simplement par la foi, si, par orgueil, on commence à changer l'Évangile et en ajoutant des choses, en faisant confiance à nous-mêmes, à nos œuvres, à nos rites, à nos sacrements, à notre religiosité. Le même sort nous attend aussi. On sera retranché. Parce que Dieu est impartial. Dans notre contexte, je pense qu'on pourrait être tenté d'avoir un sentiment de mépris, non simplement envers des Juifs, mais aussi envers nos concitoyens qui ne croient plus en Jésus, qui s'éloignent à vive allure des bases de la foi, la moralité judéo-chrétienne. C'est vrai que le plus souvent, on se sent déboussolé par ça, mais par moments, je pense que ça fait monter la colère dans nos cœurs. Et nous percevons ceux qui prônent certains choix, peut-être comme l'avortement ou comme le mariage homosexuel, comme des ennemis à combattre. Mais nous ne devons pas faire ça. On doit être rempli de compassion à leur égard. Ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin que Dieu les sorte de cet endurcissement. Ils ont besoin de goûter à cette bonté de Dieu, cette bonté qui est imméritée. Dieu nous a sortis de notre endurcissement. Il nous a montré Jésus. Il nous a montré sa lumière. Il nous a fait grâce. C'est lui qui l'a fait. À nous de prier pour notre génération plutôt que de combattre. En tout cas, gardons nos yeux braqués sur Dieu lui-même, dans sa bonté. Il a été bon à notre égard. On va arriver donc ici donc à la dernière section, les versets 25 à la fin, où on va voir la fidélité de Dieu et la gloire de Dieu. Et Paul conclut en quelque sorte ici les trois derniers chapitres. Et il revient en conclusion à ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire. Il veut qu'on comprenne l'histoire, l'histoire avec ce grand H, la vraie histoire, celle qui concerne Dieu et son peuple. Verset 25. « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. » On n'est pas plus sage que ces juifs qui ne croient pas. On est simplement bénéficiaire de sa grâce. C'est vrai, un certain pourcentage des juifs déterminés par Dieu étaient endurcis, des branches naturelles retranchées. Et ça pour qu'un certain nombre de branches sauvages, des non-juifs, déterminés par Dieu lui-même aussi, puissent être greffées sur l'olivier. Dieu en est le maître, on a vu ça. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est en train de faire quelque chose. Et ça, on le voit au verset 26, « Et ainsi tout Israël sera sauvé. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Certains pensent que tout Israël se réfère au nombre total de juifs et de non-juifs qui ont cru, qui croient, qui vont croire en Jésus. Donc, le peuple de Dieu réuni en Christ, juifs et non-juifs. C'est bien possible. Ailleurs, on parle de cette manière-là. D'autres pensent qu'il s'agit du nombre total de juifs, israélites, ethniques, qui ont cru, qui croient, qui vont croire en Jésus-Christ. Certains pensent, en voyant ça, que Paul envisage une conversion plus massive des juifs vers la fin de l'histoire, où d'autres voient l'inclusion de plus de juifs au fil de l'histoire, d'une manière progressive. Je ne suis pas sûr comment trancher ça. Ce n'est pas simple, mais je pense que le contexte nous montre d'une manière globale que Dieu n'a pas terminé avec son peuple historique. Le passage semble envisager que des juifs vont venir à Jésus. Ceux qui ont été endurcis, cet endurcissement n'est pas définitif ni total. Il y en a qui vont venir à Christ et croire en lui, être greffés sur cet olivier, réintégrés dans le peuple, parce que Dieu est fidèle. Dieu n'a pas oublié son peuple. Il a son plan. Et au verset 26 et 27, Paul cite Ésaïe 59 et 27. Il s'agit de passages où Dieu envisage ce rétablissement d'Israël. Il envisage le pardon de son peuple pour tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance, dans la foi en Jésus-Christ. Dieu sera fidèle à ses promesses. Cet endurcissement ne semble pas définitif ni total. Et Dieu a ainsi structuré l'histoire avec les non-juifs qui entrent d'abord, ensuite progressivement ou à la fin de l'histoire, des juifs ethniques qui reviennent au Seigneur pour une raison toute particulière. C'est ce qu'on voit au verset 28 à 32. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Et en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce, à cause de la grâce qui vous a été montrée, a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Dieu veut leur montrer cette grâce qui nous a été montrée. Le fait qu'il nous a donné des yeux pour voir, pour comprendre, pour venir à Christ. Nous étions désobéissants, loin de lui, incapables de lui plaire, rebelles, hostiles. Et Dieu, dans sa bonté imméritée, nous a montré sa compassion. Ça dépendait de lui, c'est lui qui l'a fait. Nous n'y étions pour rien. Et c'est la même chose avec eux. S'il les a endurcis pour un moment, c'est pour que ça soit manifeste, que leur salut, quand ils croient en Christ, que ce salut dépend de lui seul, de sa grâce seule, de sa compassion. Et pourquoi est-ce que Dieu a structuré l'histoire de cette manière-là? Je pense que c'est le verset 36 qui nous le montre, le dernier verset de notre passage. Dieu veut faire éclater la grandeur de sa gloire. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire en tous les siècles. Amen. C'est parce que l'homme n'est pas au centre de son histoire, ni le peuple de Dieu avec les juifs et les non-juifs. En fait, au milieu, au centre de l'histoire, de l'univers, c'est Dieu lui-même. Oui, à l'école, on parle de Clovis, François Ier. À notre époque, on parle aussi de la fin de la guerre froide, la montée de l'islam, progrès technologique. Et tout ça fait partie de l'histoire, c'est vrai, c'est important de connaître ça. Et au cœur de l'histoire, avec un H majuscule, il y a Dieu, ce grand Dieu créateur, dont la volonté est souveraine, dont la volonté s'accomplit quoi qu'il se passe. Et Dieu est en train de réunir en Christ un peuple pour lui-même, issu de Juifs, composé de Juifs et de non-Juifs, choisi par Dieu, un reste des Israélites, un reste des nations. Il a montré à ce peuple, Juif et non-Juif, la grandeur de sa bonté, cette bonté extraordinaire. Alors c'est vrai, on ne comprend pas toujours ses voies, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, quelle époque et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il endurcit certains, pourquoi est-ce qu'il montre sa compassion à d'autres. On ne sait même pas en détail ce qu'il fait dans nos générations, pourquoi beaucoup de gens ne croient pas. Mais on voit ici qu'il est maître de la situation, qu'il est le Dieu souverain, qu'il est bon et sévère, qu'il est fidèle et glorieux. Et à nous de lui faire confiance, tout en offrant, comme l'apôtre Paul le fait, tout en offrant l'évangile à qui veut l'entendre, aux Juifs comme aux non-Juifs. Parce que cet évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, le Juif d'abord et ensuite le non-Juif. Ensuite, les derniers versets de notre passage nous invitent à la bonne attitude à avoir face à ces questions-là. Ces versets nous invitent à glorifier Dieu dans nos cœurs, à lui faire confiance, même si on ne comprend pas tout. C'est lui qui est le seul sage. Notre sagesse est bien limitée. Notre connaissance est limitée, mais lui sait toute chose. Donc je vais juste lire les versets 33, 36 pour terminer. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses jugements sont insondables, ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire en tous les siècles. Amen. Et je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ce passage qui nous rend humbles. C'est toi, le maître souverain de l'univers. Si nous sommes à toi, c'est simplement en vertu de ta grâce, ton choix, de ton action. Nous n'y sommes pour rien. Père, ça nous rend humbles. Et nous ne savons pas comment ça marche à chaque fois. Nous avons aussi choisi de suivre ton Fils. Nous avons répondu à ton appel. Nous avons fait une décision. Nous apprenons aussi ici que c'est uniquement grâce à toi. Et Père, nous voulons te louer pour ça. Nous voulons te dire merci pour ta bonté à notre égard. Avec Paul, nous voulons prier pour le peuple historique, le peuple juif, peut-être nos amis juifs que nous connaissons au travail, dans notre entourage, nos amis de la synagogue de la Garenne-Courbevoie. Nous prions qu'ils puissent aussi découvrir la grandeur de ta bonté en Jésus-Christ. Donne-nous de donner d'une manière généreuse cet évangile sans mépris. Nous sommes la meilleure, loin s'en faut. Notre bon Père Céleste, nous voulons te dire pardon parce que si souvent, notre manière de concevoir la vie, l'histoire, même l'évangile est tellement centré sur nous-mêmes, sur l'homme, plutôt que d'être centré sur toi. Tu es le grand Dieu de l'histoire. Tu es bon, tu es généreux, tu es souverain, tu es fidèle, tu sais ce que tu fais. Nous pouvons te faire confiance. Aide-nous à te faire confiance. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.